Il y a deux choses importantes pour avancer sur ce chemin. L'une, c'est la connaissance du qui suis-je. Et l'autre, c'est le désir pour la libération. Le courage de faire le travail. Et si vous êtes là, c'est que ce désir existe en vous et c'est ça qui nous pousse à méditer, mais après à revenir méditer. Parce qu'on ne peut pas dire que l'expérience méditative en tant que telle, sauf les rares moments d'extase, c'est quelque chose de génialement agréable. Encore que, lorsque nous prenons goût à la pleine conscience, je me souviens à la fin d'une retraite, je me disais, mais c'est quand même dingue, je retourne dans ce monde. Je ne suis pas obligée, qu'est-ce qui fait que j'y retourne? C'est là, c'est notre endroit d'appartenance. Nous ne sommes pas des moines et des nonnes. Et nous venons méditer pour pouvoir mieux vivre là où nous appartenons. Et dans la connaissance du qui suis-je, on pourrait dire qu'il y a à l'intérieur de nous des graines bénéfiques et des graines non bénéfiques. Il y a la générosité, mais il y a l'avarice. Il y a la bienveillance, mais il y a la colère. Il y a la confiance, mais il y a la peur. Tout ça existe à l'intérieur de la nature humaine. Et la question n'est pas de faire notre possible pour que le jour et la nuit n'existent plus en nous-mêmes, pour que les saisons de l'âme s'estompent, mais il s'agit de savoir lesquelles j'arrose. Et lorsque une énergie bénéfique émerge dans le corps et l'esprit, je peux vraiment l'apprécier. En retraite, ces énergies émergent souvent dans le sens de mieux voir, mieux entendre, mieux goûter, et c'est profondément bon. Mieux comprendre. Et quand ce sont les énergies de l'ombre qui émergent, si je laisse la prolifération mentale les accompagner, je les arrose. Je leur donne du pouvoir, je les fais inconsciemment ou plus ou moins consciemment fructifier. Lorsque je combats la colère, je lui donne du pouvoir, je la fais durer, je la fais grandir. En tant qu'énergie, la colère est très courte, elle fait plouf, plaf, une montée d'adrénaline. Oh. Comme je ne peux pas l'accompagner, parce que la pleine conscience n'est pas suffisamment développée pour pouvoir embrasser l'énergie ici et maintenant, elle fait pouf, elle est saisie par la pensée en termes de moi, à moi, la mienne, et ça peut durer plusieurs générations. Lorsqu'il y a la joie, lorsqu'il y a la pleine conscience, lorsqu'il y a ces énergies bénéfiques, la pleine conscience est une énergie bénéfique, je les arrose en les laissant être, je peux les faire durer, je peux les apprécier pleinement, Mais je sais qu'elles sont anicca, elles sont impermanentes, comme tout ce qui émerge dans le champ de conscience. Et lorsque ce sont les énergies négatives, je me souviens que le salut passe par la présence, et la présence, c'est de l'amour. Et si vous regardez ce qu'il y a derrière la pensée, lorsqu'une émotion négative est là, c'est presque toujours une forme plus ou moins camouflée d'aversion. Pourquoi c'est là? Mais pourquoi c'est là? Pourquoi est-ce que je demande pourquoi? Parce que j'ai vaguement envie qu'une fois que j'aurai une bonne explication, ça ne viendra plus. Mais ça reviendra, je vous promets. Heureusement, autrement la vie s'arrêterait. Donc lorsque nous commençons à pouvoir dire à la totalité de l'expérience humaine « Je suis là pour toi, je veux bien prendre soin », ce qui se passe, c'est que le ressenti ou l'émotion se libère de la perception ou de toute l'histoire que je crée autour. Et l'émotion devient corporelle, je peux m'intéresser à elle corporellement, c'est ce qu'on appelle le focusing, enfin on peut appeler ça comme on veut, c'est du vipassana, mais je peux vraiment venir avec un intérêt pointu sur l'expérience corporelle liée à l'émotion perturbatrice ou non d'ailleurs, mais en général quand elles ne sont pas perturbatrices, tout va bien, je ne cherche pas spécialement à voir. Et nous pouvons voir combien c'est généreux d'ouvrir la conscience à l'expérience telle qu'elle est. Et de la questionner, de se mettre en quête, de l'explorer, plutôt que de venir avec « je sais ». « Je sais, c'est toujours comme ça avec moi. » Comment c'est d'être triste, d'être en colère, d'avoir peur, d'être attaché, d'être frustré, de résister. Et de cette manière, lorsque nous pouvons être l'intérêt, je reprends un des facteurs de l'éveil qui est vraiment important, cet intérêt pour l'expérience, tranquillement, je me rends compte qu'il y a le monde conditionné, ordinaire, celui qui est complexe, imparfait, limité, mais qu'il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui est inconditionné, qui est au-delà, qui est simple, qui est libéré. Dans cette contemplation, où par la contemplation je développe la pleine conscience, donc l'instant, et par définition l'instant est, donc il est libre, je vois vraiment l'impermanence. Je vois vraiment comment le plaisir suit la peine, reçoit le plaisir, reçoit la peine. Ce sont des choses qui font partie du monde. Et je vois aussi quand je bloque cette impermanence, quand tout à coup j'ai de nouveau cet espoir de pouvoir fixer l'expérience, et tout particulièrement l'expérience spirituelle. Parce que nous adaptons au spirituel exactement ce que nous faisons dans le monde ordinaire. Et au lieu de pouvoir être dans une souplesse où je contemple les choses telles qu'elles sont, même si quelquefois c'est une longue période de contemplation de la joie ou de la peine, lorsque je suis dans cette souplesse, la sagesse se développe. Et peu à peu, l'instant devient essentiel. Et je ne peux et je ne veux plus fuir, parce que je l'aime l'instant tel qu'il est. Je sais que ça n'est pas ailleurs. Et je me libère du rêve conceptuel. Je vous lis un sutta. Je suis est un concept. Je suis ceci est un concept. Je serai ceci est un concept. Je ne serai pas concept. Je posséderai, je ne posséderai pas concept. Je percevrai, je ne percevrai pas. Tout ça sont des concepts. S'ils sont inconscients, concevoir est une maladie, une tumeur, une piqûre. En surmontant tout concept, bhikkhu, une personne est appelée un sage en paix. Et les sages en paix ne sont pas nés, ne vieillissent pas et ne meurent pas. Ils ne sont pas tourmentés ni agités, parce qu'il n'y a rien en eux qui peut les faire naître. N'étant pas nés, comment pourraient-ils vieillir? Ne vieillissant pas, comment pourraient-ils mourir? Ne pouvant pas mourir, comment pourrait-il être tourmenté? N'étant pas tourmenté, comment pourrait-il être agité? Lorsque nous prenons refuge dans la pensée, le concept est une tumeur. Il crée un moi, et finalement, s'il crée un moi génial, extraordinaire, qui a fait des merveilleuses réalisations, c'est une même création de moi que celui qui va créer un moi horrible, terrible, nul. Si je crée un moi positif, je vais le créer négatif. Il n'y a pas de miracle. Quand l'instant devient essentiel, il devient d'abord goûteux. Il devient goûteux, mais ça ne veut pas dire que je pense que ça c'est juste en opposition à quelque chose qui serait faux. Je peux voir, ah ouais, c'est goûteux. Est-ce que c'est goûteux pour vous juste maintenant? Parce que soit ça l'est, soit ça l'est pas. Goûteux, c'est pas une idée, c'est quelque chose que je réalise ici et maintenant. Et le corps peut être terriblement goûteux, quand on l'habite simplement. Et l'espace et le silence. Et vous, vous pouvez être terriblement goûteux quand je vous regarde. C'est maintenant, c'est pas avant ni après. L'instant devient essentiel parce qu'il est respecté. C'est un maître zen qui disait « Le chemin vers l'ultime n'est pas difficile pour ceux qui n'ont pas de préférence. » Il y a ce respect de l'instant tel qu'il est. Vipassana, c'est vraiment ça. Et puis, il y a une bonté, le moi devient visible, le sens du moi aussi devient visible, et il y a une bonté d'accueil. Et je vois quand je crée un moi qui a besoin, qui veut, et quand il y a une absence de cette création. Et alors nos pensées arrêtent d'être la vérité. Nous voyons comment nos pensées peuvent diriger nos vies, et elles se mettent à leur place, et elles arrêtent d'être une tumeur. Elles deviennent discernement, plus souvent en tout cas. De temps en temps, elles redeviennent tumeurs. Nous avons des stratégies liées à la pensée. D'une part, la pensée fait des plans. C'est quand nous avons besoin de contrôle. Ou bien, elle a besoin de succès. Elle donne des preuves de ses compétences. Ou bien elle a plutôt besoin de conformité. Il ne faut surtout pas que je me fasse trop remarquer, que je passe un peu entre les gouttes. Ou bien nous avons besoin d'être aidés. La pensée se situe dans un moi en position de faiblesse qui va demander de l'aide. ou au contraire dans celui qui aide toujours. Ou quelquefois, c'est plutôt un besoin de diversion et la pensée cherche toujours des activités à faire. Ou le besoin de non-existence. Je me blâme, je me juge, je suis vraiment mauvaise avec moi-même. Et ce sont des stratégies différentes qui existent plus ou moins fortement selon les personnalités et qui aussi émergent plus ou moins selon les moments dans notre vie. C'est vraiment important d'apprendre à les voir. Derrière ces pensées, il y a toujours ce désir qui est un désir de bonheur, mais qui s'applique à la mauvaise place. Et dans les retraites, on voit bien comment le désir nous pousse à créer des pensées liées à ce que je ferai si j'étais pas là, ce que je ferai après, quand la cloche sonnera, qu'est-ce qu'il y aura à midi, à manger, quand c'est que je peux aller dormir. Je vous lis Eti Ilzoum. C'est une personne, je la lis souvent parce que je trouve qu'elle est remarquable. C'est une personne qui a vécu dans les camps de concentration à Amsterdam et qui a aidé ses semblables plutôt que de partir aux États-Unis. Et elle dit « Les pires souffrances de l'homme sont celles qu'il redoute, car le grand obstacle, c'est toujours les représentations et non la réalité. La réalité, on la prend en charge avec toute la souffrance, toutes les difficultés qui s'y attachent. On la prend en charge, on la hisse sur ses épaules, et c'est en la portant qu'on accroît son endurance. Mais la représentation de la souffrance, il faut la briser. » En brisant ces représentations qui emprisonnent la vie derrière leurs grilles, on devient capable de supporter la souffrance réelle dans sa propre vie. Qu'est-ce qu'on se crée comme souffrance avec la pensée, vous avez remarqué? Lorsque nous lâchons nos stratégies conceptuelles, ou plutôt, nous ne pouvons pas lâcher nos stratégies conceptuelles sans venir en même temps dans une confiance de l'impermanence. Sans être en même temps prêt à recevoir les choses telles qu'elles viennent. Parce que si je n'ose pas me laisser perdre, si je n'ose pas m'exposer un peu, si je n'ai pas goûté les joies de l'incertitude, ça veut dire que je tiens. Je tiens. Et c'est très douloureux de tenir. Nous tenons parce que nous croyons que c'est ainsi que nous allons nous sauver, mais en fait, nous nous perdons. Et le processus méditatif est passionnant parce que si j'ose aller un peu près de ce qui me fait peur, si j'ose m'exposer, si j'ose me laisser perdre totalement, je me rends compte qu'il y a une sécurité qui me tient. Il y a quelque chose de plus grand que moi qui me porte. Et alors c'est important de prendre des risques, d'oser vivre grand, d'aller où c'est menaçant, de se fatiguer pour le dharma, de donner de soi-même, parce que sinon nous vivons petits, nous restons petits. Osez voir. Et je le redis parce que quand nous sommes dans des moments douloureux, difficiles, c'est tellement important de savoir qu'ils sont utiles et de savoir que toute percée est précédée d'un effondrement. Souvenez-vous de ça. Quand ça vient et que j'ai peur et que je ne sais pas, que c'est confus, Comment dire OK? Parfois, nous avons l'impression que l'aspect douloureux de l'expérience est une erreur. Ne la croyons pas. Ne croyons pas la voix qui nous dit n'y va pas. N'arrosons pas par la pensée, mais laissons être, donnons du soin aux choses telles qu'elles sont. La libération, ça n'est pas la fin des problèmes. Et le problème, ça n'est pas nos conditions. Nos conditions ne sont pas un problème. Nos limites ne sont pas un problème. Ce qui est un problème, c'est l'aveuglement. C'est que je ne peux pas rencontrer mes limites. Et alors je viens dans l'identification, j'ai raison, nous avons raison, elle ou il a raison, j'ai tort, et l'agrippement est là, et alors je tiens, il y a ce truc où je tiens, et nous mettons la faute à l'extérieur. Souvent, lorsque la peur est là, il y a un fautif. Le fautif, c'est l'autre ou moi, je suis un autre, souvent. Et au lieu de prendre ma responsabilité de contemplation de l'expérience ici et maintenant, il y a un fautif. Mais c'est Gandhi qui parle de cette avidité qui est une violence. La violence, ça n'est pas seulement de tuer, c'est de prendre trop. Et alors il y a ce mouvement de boomerang. Je me souviens quand j'étais jeune, j'étais scandalisée, je lisais des bouquins sur l'Inde, quand il y avait les colons indiens, anglais en Inde. J'étais scandalisée de la richesse des Maharajas par rapport au peuple autour. Parce que nous, on vivait une époque ici où il y avait relativement peu de différence entre les riches et les pauvres. Et puis, à l'époque, je n'avais pas beaucoup de conscience, je dirais, politique. Enfin, toujours est-il que j'étais scandalisée. Puis aujourd'hui, c'est moi qui suis la Maharaja. Sur cette terre, nous sommes les Maharajas. Quand même, il faut le voir. Et ça rend humble, ça demande le pardon, parce que c'est la nature humaine. Nous sommes conditionnés. Et notre générosité est limitée à nos conditions. Je vous lis Soljenitsyn. Si seulement nous étions tous plus simples, si seulement il y avait quelque part des gens mauvais qui commettaient volontairement de mauvaises actions et qu'il faudrait séparer du reste des hommes et détruire. Mais la ligne qui sépare le bien du mal traverse le cœur de chaque être humain. Et qui parmi nous est d'accord de détruire un morceau de son propre cœur? En faisant acte de connaissance de la totalité de la nature humaine, ombre et lumière, nous trouvons un refuge qui est ailleurs que dans la protection du moi. Et c'est une grande générosité. Être maître de soi-même, c'est pouvoir résister à la réactivité. Il y a cette très jolie histoire d'un monastère où, au Japon, c'était sûrement au Japon, où un groupe de bandits arrive à l'heure de la prière. Et puis ils tuent tout le monde, les moines se mettent à courir partout en hurlant, c'est la débandade, c'est le carnage. Et puis dans un coin, il y a un petit moine qui reste assis, tranquille, il ne bouge pas. Et puis à un moment donné, le chef des bandits arrive devant lui et lui dit « Je suis celui qui peut te couper la tête d'un coup de sabre !» Et puis le petit moine lui dit « Et moi ?» Je suis celui qui peut se laisser couper la tête d'un coup de sabre. Et il est dit, que le bandit a subjugué, a baissé son arme et a demandé à sa troupe de se retirer. Je ne sais pas si le reste de l'histoire est vrai, mais en tout cas, aujourd'hui c'est Pâques, et toutes ces histoires sont là pour montrer par l'image cette compétence de la nature humaine qui est plus puissante que le monde conditionné. Quand le Christ se laisse mourir sur la croix, c'est qu'il s'ouvre totalement à la souffrance. Il n'y a pas de résistance, aucune résistance. Et la conséquence, c'est la résurrection. Et nous pouvons le vivre ici et maintenant. Qu'est-ce que ça fait quand je tiens, quand je refuse, quand j'ai peur de ce qui émerge ici et maintenant? Et qu'est-ce que ça fait quand je sais dire oui? Et quand ça dit non, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dis encore oui au non. Je ne sais pas où j'ai vu ça, je trouve ça tellement joli. Quand tu pleures, ne garde pas tes larmes, offre-les aux étoiles. Je pleure pour les autres, je pleure pour rien, pour les étoiles, pour l'être ici et maintenant. Quand il y a les pleurs et quand il y a la joie, je ris pour rien. Il y a donc ces deux connaissances, ou ces deux désirs, le désir de faire ce chemin à l'intérieur de l'être, de purification à travers l'instant tel qu'il est, et ce chemin de désir de libération qui nous permet la connaissance de l'ultime ou du nirvana. Et le nirvana, l'ultime, ça n'est pas quelque chose qui est Dieu sait où. C'est ici et maintenant. Lorsque j'ai cet ancrage dans l'espace, le silence, dans le contenant, dans le rien, mais le rien qui est capable de voir. Avec la connaissance du qui suis-je, je comprends beaucoup de choses. Je comprends d'abord que je suis limitée, imparfaite, puisque voilà, il m'arrive d'être une fille. Ça nous arrive, hein? Comment ça arrive d'être une fille ou un garçon? Ah bah moi il m'arrive d'être une fille. Ok, alors je suis donc limitée. Et puis, aussi interconnectés. Nous sommes interconnectés. Nous sommes profondément dépendants les uns des autres. Et quand nous tombons dans cette fermeture liée au moi, c'est quelque chose que nous oublions totalement. Nous avons une manière de savoir nous isoler qui est impressionnante. Une chose qui est très bonne en termes de souplesse interrelationnelle, c'est de se souvenir à quel point c'est mystérieux que je sois moi. Et que vraiment, je pourrais être n'importe lequel d'entre vous. Ça nous arrive de tomber dans un corps comme ci ou un corps comme ça. Et après, on est bien content, on n'a pas tellement envie de changer de corps. Qui c'est qui a envie de changer de corps ? On a beau souffrir, le martyr, quand même on est bien attaché à moi, heureusement. Et puis la connaissance de la libération, le désir de la libération et la connaissance du nirvana est beaucoup lié à ce souvenir d'être là, cet engagement dans le travail de la pleine conscience. Et ce que ça me montre, c'est que je suis en même temps un moi limité, mais je suis aussi illimité, l'éternel présent. Je suis le je suis, dit Ramana Maharishi. Il y a tellement de manières de le dire. Il y a tellement de manières de le dire, et une manière de le dire qui est bonne en termes de lâcher prise, c'est ce rien. La libération ou l'ultime, c'est du rien. Alors évidemment, quand on dit c'est du rien, le moi, il a peur. Et il a horreur du rien, le moi, puisqu'il a toujours envie d'être tout. Et la vacuité, j'aime beaucoup parler de la vacuité parce que énergétiquement, c'est un mouvement de lâcher prise, d'abandon, mais qui donne une plénitude totale. Et c'est paradoxal. La générosité du rien, faire les choses gratuitement. C'est bon de faire les choses gratuitement. On le voit quand tout à coup il nous arrive de les faire pas gratuitement. Qu'il y a un enjeu. Wow, c'est lourd. Dans la gratuité, il y a beaucoup de générosité. Nous avons l'impression que la générosité, c'est de donner quelque chose. Mais c'est bon aussi de ne rien donner et d'être. Il y a quelque chose qui se donne dans l'être. Je vais finir avec Maurice Béjart. J'adore cette parole de Béjart. Et dans tout ce qu'il fait, pas tout, mais presque tout, je trouve que l'ultime s'exprime dans ce monde conditionné des corps, et c'est tellement beau. Alors quand j'ai lu ça, ben j'ai compris. Je continue à marcher, dit Béjart, à voyager, je reste un voyageur. Ce voyageur est à la fois égaré dans un monde illusoire, où les apparences ne sont pas toujours très jolies, et relié à un monde profond, où le chemin se révèle d'une grande simplicité. Je fréquente donc simultanément le monde de la multiplicité chaotique, plein des faux semblants, et le monde de l'unité, lumineux et simple. En même temps.